Il y a plein de choses, c'est bien que tu aies pu rebondir, qui me fait écho, en effet, voilà, ce que j'ai pu observer. Et notamment, tu as très bien décrit cette manière dont, quand tu as dit, en fait, ça m'arrangeait presque qu'ils me disent qu'ils ne me reprennent pas. C'est complètement ça, en fait. C'est toute cette ambivalence qui est très bien ressortie. Tout ça. Et ce que je trouvais très intéressant dans ton exemple, c'est aussi cette dimension paternaliste, finalement, qui était très présente chez des employeurs qui, en fait, t'aidaient, se présentaient comme, et tu l'as très bien, je trouve, mis en exergue dans ta reprise, la manière dont les très riches, finalement, se convainquent qu'ils sont des bons employeurs, qu'ils sont utiles à la société. Et ça, c'est vrai que c'est un discours auquel je me suis énormément confrontée. Et je pense, quand on fait de la sociologie des classes supérieures, voilà, les très riches légitiment en fait leur privilège en fait en montrant qu'ils servent aux autres. Et en fait, toi, ils t'ont fait ce chèque de 10 000 euros pour ton restaurant, ils t'ont amené à New York pour pouvoir. Et donc, c'est vraiment cette redevabilité. Alors, j'ai donc dans ta discussion, oui, quand tu parles de dons agonistiques, c'est complètement ça. C'est mettre les employés dans une dette qu'ils ne pourront jamais combler finalement, puisqu'ils n'ont pas l'argent, en fait, pour pouvoir faire autant de cadeaux à leurs employeurs. Et donc, en fait, ils essayent de la combler en donnant leur corps, en fait, à la famille, complètement. Et donc, c'est vraiment et puis, la fatigue que tu as pu ressentir aussi, voilà, après 2 mois intensifs au service de cette famille était très forte, je trouve, très, très, très éloquente. Et Sylvie, sur ta reprise, c'était très, très bien de mettre en perspective, ça m'a vraiment intéressée. Plein de notes sur la manière dont tu rappelais aussi voilà, la place de la domesticité dans le salariat aussi, qui est un rapport salarial totalement particulier, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, quand on regarde les textes de loi qui encadrent justement les services à la personne, et notamment les conventions collectives qui régissent le secteur des services à la personne, c'est qu'elles sont écrites de manière à ce que ce salariat soit un salariat pas comme les autres. Demeure, d'ailleurs, ça relève d'un droit de type dérogatoire, des conventions collectives. C'est pas le droit du travail qui s'applique à d'autres secteurs professionnels. Et en plus, pour l'avoir, j'avais fait ce travail, une juriste avait fait ce travail d'analyse auquel je m'étais intéressée, où elle montre très bien que dans chaque ligne, finalement, on peut être autorisé en tant que patron de donner moins de jours de congé, de payer toujours moins, parce qu'il y a notamment des dispositifs qui permettent de réduire sans cesse le salaire, avec notamment ces fameuses heures de nuit qui sont considérées dans la convention comme des heures d'astreinte, où l'employé est censé être juste là pour, par exemple, dormir dans une chambre à côté de la personne âgée et être juste là au cas où il se passe quelque chose. Et donc, en fait, ça permet, c'est un argument pour certains employeurs pour payer moins, en fait, les travailleurs pendant la nuit, alors même que parfois, eh bien… On travaille vraiment la nuit, on ne dort pas la nuit, en fait, parce que même quand on s'occupe d'enfants et qu'on s'occupe d'enfants malades la nuit, on ne dort pas, en fait, la nuit. Donc, c'est du vrai travail et qui devrait d'ailleurs même être plus payé que le travail de jour, parce que c'est la nuit.
C'est majoré.
Voilà, normalement, c'est majoré. Et en fait, paradoxalement, les conventions collectives montrent très bien, voilà, à quel point on est toujours dans dans ce salariat, comme le disait aussi Elsa Dorlin ou encore Jules Paquet, qui n'est pas… qui veut être comme un salariat comme un autre, mais qui n'est pas tout à fait comme un autre, en fait. Et on voit ces ambiguïtés dans les textes aussi de loi, que ce soit à l'échelle nationale ou alors même dans les textes de l'OIT, en fait, de l'Organisation internationale du travail, qui sont tout le temps dans cette frontière-là. Et puis juste pour terminer, pour laisser place à l'échange, j'ai bien aimé ta mise en perspective plus politique après, parce que c'est aussi à ça qu'ouvrent les ouvrages de sociologie, finalement aussi, de repenser la place du travail domestique dans la société. Et tu vois, il faut que je relise Angela Davis, parce que je ne savais pas qu'elle parlait en fait de ça, de la question du service public, ça m'intéresse énormément. Et évidemment, il y a aussi la question beaucoup plus radicale, qui est de repenser ensuite l'articulation des différents temps sociaux. Et je pense notamment à une jeune philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle est passée un peu sur les réseaux sociaux, Céline Marty, qui est une philosophe du travail et qui reprend pas mal des travaux d'André Gorz, qui lui, en fait, prônait déjà à l'époque où il écrivait une réduction du temps de travail pour tous afin justement de travailler moins et beaucoup moins que 35 heures, du coup, pour pouvoir justement avoir le temps de s'occuper aussi de sa propre reproduction. Et Céline Marty, elle reprend cette proposition aussi en disant, mais en fait, c'est pas 35 heures qu'il faudrait bosser, c'est 15 ou 20 heures par semaine. Comme ça, non seulement tout le monde aurait du travail, parce qu'il n'y en aurait pas certains qui travailleraient beaucoup et d'autres pas du tout, et qu'en plus, on aurait le temps de par ailleurs aller chercher nos enfants à 16 heures à l'école, de prendre en charge ces tâches domestiques. Et ça, en effet, les féministes ont énormément pensé toute cette reconfiguration des temps et des valeurs accordées au temps, je trouve qu'il y a une question, et qui d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, clive aussi énormément. Donc, c'était passionnant que tu le rappelles et voilà. Et bon, enfin, maintenant, à vous de poser des questions. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une énorme, quand même, littérature et fiction qui a été faite autour de ces rapports-là. Et d'ailleurs, qui a du succès.
Mais effectivement, The Servant de Joseph Losey, c'est un film dans lequel la domination va être inversée, où effectivement, le domestique homme va prendre l'ascendant finalement sur son patron. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est un peu présent, c'est-à-dire c'est très présent dans l'ouvrage d'Alizée aussi, puisqu'elle a des patronnes qui ont rêvé eh bien, que leur domestique les tuait. Hein, ouais. T'en as une qui un matin au petit déjeuner arrive décomposée en expliquant qu'elle a rêvé voilà que ses domestiques l'avaient assassinée voilà avec un coup de pied ou je sais pas quoi et il y a cette peur effectivement d'un malgré tout effectivement ce qui rend la domination effectivement quasiment impossible à renverser avec tout ce qui est fait pour entretenir la distance sociale et la domination. Malgré tout il y a toujours cette peur effectivement de la possibilité d'un renversement du rapport de pouvoir aussi parce que et ça effectivement et le travail me donne des éléments de compréhension de ça parce que les domestiques ont accès à l'intimité finalement des riches qui servent et cet accès à l'intimité est une source de pouvoir parce qu'ils ont sur eux des informations qui peuvent être d'ailleurs compromettantes etc. Ils ont les moyens effectivement par leur connaissance de toute cette intimité, eh bien, de pouvoir renverser justement cette relation de pouvoir malgré tout. Et la peur, donc, ne manque pas d'exister, y compris dans l'esprit de ces riches.
De ces riches. Et elle existe même dans d'autres univers sociaux. Par exemple, les travaux de Christelle Avril ou ceux qui ont porté sur l'aide à domicile montrent aussi que dans le cas d'une situation où l'employeur est vulnérable, parce qu'il n'est pas dépendant physiquement, eh bien, il y a toujours une peur chez les enfants que l'aide à domicile, voilà, prenne le dessus, prenne le pas sur leurs parents âgés vieillissants, en notamment en étant maltraitante ou encore en volant, la peur du vol, alors qu'elle est aussi très présente chez les riches par ailleurs, la peur du vol. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a cette peur et qui est renforcée par la classe sociale aussi auxquelles appartiennent notamment les aides à domicile, qui sont des femmes des classes populaires, auxquelles voilà, on assigne tout un tas de pratiques. Malveillante, pas morale, etc. Oui, alors la question de la parentalité, elle est très intéressante et quand vous écoutez, j'ai tout de suite souvenu d'une parole d'une employeuse qui me disait « Moi, je privilégie avec mes enfants la qualité plutôt que la quantité. » Et donc, en fait, c'était une femme qui travaille. Non, mais du coup, ce qui révèle vraiment ce que font les femmes et les hommes employeurs, et surtout les femmes, puisque c'est elles, hein, dans des univers, et tu l'as rappelé, qui sont quand même en fait très… très traditionnel du point de vue de la division sexuée, du travail domestique et de la charge parentale. Donc, on attend quand même des mères qu'elles soient des bonnes mères. Mais être une bonne mère, quand on est multimillionnaire, c'est non pas être collé à son enfant au quotidien, mais c'est trouver la bonne nounou qui va pouvoir se substituer aussi à la mère avec toutes les ambivalences que ça comporte, parce qu'il y a aussi des jalousies entre les femmes employeuses et les nounous, puisque les enfants en viennent à considérer que les nounous sont leur mère plus que leur mère biologique, etc. Donc ça, il y a plein de choses. Et alors, dans le travail qui est fait, en fait, les grandes fortunes que j'ai rencontrées vont en vacances avec leurs enfants ou privilégient des sorties un peu exceptionnelles. Et donc, sont là pour les moments d'exception avec leurs enfants, mais jamais là pour changer la couche, pour leur faire à manger, etc. Et ça, c'est les domestiques, les nounous notamment, qui prennent en charge tout ce travail-là. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça renvoie aussi à des travaux qui ont été faits par notamment Bruno Cousin et Sébastien Chauvin, qui se sont donc deux sociologues qui se sont intéressés aussi aux ultra riches et qui ont plutôt travaillé sur les coachs sportifs, les profs particuliers, enfin tout ce personnel en fait à temps partiel, voilà, qui sont parfois embauchés via des entreprises aussi, etc. Et qui, en fait, montre, et Bruno Cousin le dit très bien, il dit, en fait, ça montre l'anxiété qu'ont aussi les classes supérieures, et notamment les nouveaux riches, à faire tout ce travail éducatif d'éducation de leurs enfants, quand eux-mêmes n'ont pas toujours les codes, finalement, culturels, etc. Ils font appel, par exemple, voilà, les nouveaux riches savent pas tous faire du piano, vu qu'en fait, ils n'ont pas grandi dans des milieux bourgeois où on apprenait dès 3 ans à faire du piano. Mais par contre, ils savent que faire du piano, c'est important pour leurs enfants pour pouvoir se positionner dans ces milieux-là et se reproduire et rester dans ces milieux-là. Et donc, du coup, ils vont faire appel à des professeurs particuliers de piano pour pouvoir enrichir les compétences de leurs enfants. Et donc, ça montre tout le travail intime de la reproduction sociale, tout ce qui est fait dans les familles pour assurer la reproduction sociale, qui est une source finalement d'anxiété, notamment chez les parents nouveaux riches, mais aussi finalement chez les parents aristocrates. Et là, je fais référence à un autre travail qui a été fait par un jeune sociologue, Kevin Jay, qui a écrit un travail, qui a écrit un livre qui s'appelle Aux marges des... Enquête sur les bourgeois, j'avais le sous-titre Aux marges des beaux quartiers, et qui montre très bien en fait comment l'aristocratie en fait se confronte à une injonction à des pratiques éducatives de plus en plus internationalisées qui sont portées par les nouveaux riches qui sont aujourd'hui les plus riches des riches. Et donc les aristocrates qui eux jouaient plutôt sur un registre de l'ancrage français traditionnel territorial sont très de plus en plus soucieux à mettre leurs enfants dans les écoles des nouveaux riches qui leur offrent un cursus beaucoup plus international, etc., et adoptent même ces pratiques là et notamment, et moi ce que j'ai pu voir, c'est des aristocrates qui sont de plus en plus soucieux non pas de recruter les nounous, les bonnes nounous françaises blanches comme c'était à l'époque, mais plutôt la nounou philippine parce qu'elle parle aussi anglais, la nounou chinoise parce qu'elle va parler chinois aux enfants, etc., etc. Et donc, dans le personnel, on recherche un substitut parental, mais de parenté un peu, de parentalité augmentée, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est d'être un parent mieux que soi. Et il n'y a pas de... Alors, si, il y a de la culpabilité chez les mères que j'ai rencontrées, mais pas autant que sans doute dans d'autres milieux sociaux où c'est moins bien vu finalement de ne pas être la mère qui est proche tout le temps de ses enfants. Notamment chez les aristocrates, c'est plutôt la norme finalement chez les femmes que j'ai rencontrées de pas être tout le temps avec ses enfants en fait. Ça pose pas de problème aux riches. Alors ça pose quelques soucis pas moraux mais pratiques aux nouveaux riches. Comme j'ai dit, ils ne savent pas trop comment on emploie, etc. Mais au lieu d'avoir recours à des intermédiaires du marché, qui existent, hein, j'ai aussi enquêté, en fait, ça ne figure pas vraiment dans le livre parce que justement, leur place sur le marché est très marginale. Et j'ai pu enquêter notamment au sein de formations de butler, où on apprend à être majordome, etc., et au sein d'agences de recrutement de personnel de maison haut de gamme. Et en fait, ces agences ne marchent pas parce qu'en fait, même les nouveaux riches qui ne savent pas trop comment on recrute s'en remettent aux personnes de leur entourage qui ont l'habitude. Et donc, concrètement, quand ils en viennent à habiter dans le 16e arrondissement, à acheter leur hôtel particulier, ils sont entourés de gens qui ont des domestiques. Et donc, très vite, par le bouche à oreille, ils vont savoir comment on fait, ils vont faire cet apprentissage. Par contre, c'est vrai, là où tu as raison, et ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette culpabilité qu'on trouve, par contre, chez les classes moyennes. Et là, je réfère, ça vous intéresse, à un article de Pascal Molinier qui s'appelle « Les féministes et leurs femmes de ménage », où elle montre que, en fait, c'est des femmes donc, qui se disent féministes de gauche, mais qui ont une femme de ménage, parce qu'en fait, elles n'arrivent juste pas à concilier, comme voilà, pas mal de gens, leur tâche. Et en fait, ça leur pose un dilemme moral énorme. Et donc, en fait, elles se montrent à chaque fois comme des bonnes patronnes, en disant à chaque fois, mais en fait, moi, je la traite bien, je fais attention de bien. Nanana. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un dilemme que les intermédiaires permettent en partie de résoudre. Et il y a donc une collègue qui travaille avec moi, Hélène Mallarmé, qui va bientôt... rendre une thèse qui travaille sur les agences de garde d'enfants, justement. Et donc, elle va bientôt, je pense, la rendre là d'ici l'été et qui montre très bien, finalement, le rôle de ces intermédiaires qui servent, en fait, de tampon, finalement, aux relations qu'on n'a pas envie d'avoir. Et vous l'avez très bien dit, c'est un salariat, mais externalisé. Et moi, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que je pense que dans cette économie des services domestiques, ils ne font pas partie de ce que l'État appelle les services à la personne, mais on pourrait même ajouter les services très externalisés, type Uber Eats, Deliveroo, etc., qui, là, évitent encore plus la relation salariale parce qu'avec ton smartphone, hop, on commande un repas, on paye, mais finalement, ce qu'on paye, ce n'est pas le salarié directement, c'est la plateforme, etc. Et puis là, le travailleur ne vient même pas plus d'une minute, il ne vient même pas dans le domicile, finalement, il vient à la porte. Donc, c'est encore une autre manière, je trouve, d'externaliser aussi le domestique. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que je trouve qu'il y a une continuité en fait là-dedans avec des intermédiaires plus ou moins présents qui permettent de finalement populariser la domesticité et la rendre acceptable sous d'autres formes, finalement. Sur la dette, je te laisse répondre.
Comment sur la dette, bah oui, le péonnage, c'est ça, hein, c'est des ouvriers qui effectivement sont tellement endettés, voilà, qui se font embaucher pour résoudre cette dette. Mais c'est pour ça que je parlais de ce salariat comme un petit peu une forme élémentaire de salariat, la domesticité. Hein. Sous l'Antiquité, effectivement, les travailleurs étaient plutôt des esclaves. Puisqu'on savait que le travail était renvoyé au rythme de la nécessité, c'était donc les esclaves. Mais parmi ceux qui travaillaient en échange d'un revenu monétaire, on trouvait des citoyens libres endettés, qu'on appelait les têtes. Eh bien, eux, en fait, se retrouvaient dans une position où ils travaillaient aux côtés d'esclaves, dans des fonctions un petit peu moins pénibles que celles des esclaves. Hein, ils géraient des magasins, les stocks, etc. Mais n'empêche que, et pourquoi est-ce qu'ils se salariaient, même si le mot n'était pas donné en ces termes-là, c'était pour rembourser une dette. Donc, c'était un moyen pour ces citoyens libres, qui avaient perdu leur liberté parce qu'endettés, d'avoir accès à ces revenus monétaires pour retrouver justement ce statut perdu. Mais ça pose la question, d'ailleurs, c'est une question peut-être qu'on pourrait aussi se poser après avoir lu Alizée, c'est finalement dans quel parcours sociaux finalement se trouvent ces travailleurs qui vont vers la domesticité. Je ne dis pas qu'ils font le choix, mais qui vont vers la domesticité. Hein. Finalement, quelle dette aussi peut-être symbolique, hein. Ce serait peut-être intéressant de réfléchir à ça, parce qu'au-delà de ce qui pourrait être analysé dans des termes psychologiques, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une nouvelle famille, puisqu'on est presque adopté. Hein. Sauf qu'on est adopté, mais on n'est pas exactement l'enfant de la famille. Hein, parce que la manière dont les liens se rompent rappelle que on n'est pas un enfant de la famille. Mais peut-être que y a d'autres dettes, hein, peut-être plus symboliques à rembourser, qui peuvent aussi être en jeu dans ce qui nourrit finalement l'engagement dans un emploi domestique. Alors, les peurs, effectivement, je ne suis pas sûre qu'elles soient nouvelles. Je pense que cet imaginaire de la domesticité, il a, je pense, toujours été traversé par des peurs de renversement, effectivement, des relations de pouvoir.
Et d'illusion, de renversement du pouvoir qui renverrait finalement à une lutte des classes par ceux qui sont opprimés et qui finalement viendrait contraster avec un idéal que prônent les classes qui se font servir d'une alliance de classes. Finalement, c'est ce que vendent aussi, ce que promeuvent les multimillionnaires, c'est de dire en fait, la lutte des classes, elle n'existe pas. Enfin, en fait, il y a des intérêts, et tu en parlais un moment, et donc là, on est plutôt dans une alliance. La domesticité, c'est une merveilleuse alliance de classes. Et donc derrière, la peur, c'est que ça marche pas. Et en fait, ça marche. Enfin, c'est plus complexe que ça. Et donc il y a un peu ce fantasme-là. Mais juste pour rebondir sur les plantes et tout, je suis pas sûre d'avoir totalement saisi, mais ça me faisait penser à tous les travaux sur le Caire, en tout cas le Caire à la française, parce que le Caire à l'américaine, la manière dont le Caire a été pensé en France, c'est pas totalement pareil. Il y a un véritable projet philosophique, éthique et politique derrière les travaux du Caire à la française, avec cette idée justement de repenser les valeurs, notamment de la société, valeurs qui déterminent les salaires aussi qu'on attribue aux gens, etc., mais pas que, et d'essayer d'inclure dans ces valeurs-là tout le travail émotionnel, le travail de soins, qui est avant tout un travail dévolu aux femmes, etc. Mais ça rentre dans l'écoféminisme, c'est quand même un peu ça.
Ah ouais, mais eux se sont inspirés d'ailleurs justement de l'écoféminisme. Penser aussi le soin
aux choses. Ouais.
Je peux dire que... Alors, avec le gardien et sa femme, la femme de ménage, on est devenus très amis parce que je dormais dans leur maison, qui était en haut de la propriété. Et eux, ils avaient la maison en bas, au bord de l'eau. Donc, du coup, ça m'arrivait le soir de boire des mojitos avec eux, de discuter, de parler, de conditions de travail. Et donc, du coup, d'ailleurs, je les ai même un peu poussés à renégocier leur salaire parce que eux étaient à l'année et touchaient, je crois, 200 euros par mois. Après, bien sûr, ils ne payaient pas le logement, ils ne payaient pas les impôts, mais ils étaient payés 200 euros par mois, plus un bonus quand ils viennent. Donc, sachant qu'ils viennent l'été. Et après, ils peuvent prêter la maison dans l'année à des amis. Donc là, il faut plus vite qu'ils ressortent tous les coussins sur la banquette, faire tout le temps comme si la maison était en vie, en fait. Mais dès qu'il n'y a plus personne, ben, il range tout dans la cave parce que c'est au bord de la mer. Il ne faut pas que les coussins s'abîment avec le sel parce qu'il y a des toiles qui viennent d'Afrique, d'Inde, des trucs. Bon. Et donc, du coup, j'ai commencé une négociation. J'arriverai pas à refaire ce sketch, mais c'est très drôle quand lui le raconte. Et en fait, ça s'est fini qu'ils m'ont dit, non, Jean-Jacques, on vous paye déjà un SMIG, là, avec la location de l'appartement, les taxes d'habitation, tout ça, si on en a plus, ça fait 900 euros par mois, c'est bien, non? Ça fait un SMIC, quoi. Et puis, non, en fait, vous rigolez. Puis bon, en fait, ça a duré un an et demi. Après, ils ont repoussé à dire, justement, ils ont quand même un gestionnaire de patrimoine qui gère normalement tous les problèmes administratifs, les négociations de salaire avec le gardien. Eux, ils arrivent en dernier renfort de dire on valide ou on valide. Et au final, il a dit, je m'en vais. Et en fait, il voulait tellement pas qu'il s'en aille, qu'il m'a dit, OK, 2000 euros par mois, ça veut voir. Maintenant, il est à 2000 euros par mois. Enfin, lui, il a pris sa retraite et c'est sa femme, maintenant, qui est gardienne, femme de ménage, à 2000 euros par mois à l'année, plus les bonus quand ils sont là. Ça a pris un an et demi de négociation, mais ça a fait 10 fois plus. Et après, l'autre rapport que j'ai eu, c'était avec d'autres cuisiniers, de la sœur qui a embauché un cuisinier après que moi je suis arrivé. Parce que du coup, la sœur, dans le profil psychologique, était plus bling-bling que la grande sœur. Moi, j'étais chez la grande sœur, qui était un peu, justement, discrète sur l'argent. Les enfants, on le voyait bien, qu'ils ne se rendaient pas compte de dans quel monde ils vivaient, de quel argent ils avaient. Par exemple, la petite sœur, c'était jet privé tous les week-ends, bling, 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 bling. Et du coup, ben, quand elle a vu que sa grande sœur allait cuisiner, lui, avoir un cuisinier aussi, donc elle est passée par 2-3 échecs où à chaque fois elle était déçue. Et quand elle a trouvé un qui est l'équivalent, elle nous a mis en concurrence, en fait. Et donc, c'était lors de repas où elle dit, nous, à la maison, Vincent, il fait un peu mieux que ça quand même. Hein. Non, Antoine, tu penses pas que... mais on pourrait organiser un petit concours entre eux. Du coup, notre relation n'a pas très bien commencé. Mais en fait, quand on avait un petit jour de repos et qu'on allait boire un verre et qu'on parlait et qu'on discutait, on voyait bien qu'on était dans le même côté de la barrière et qu'il fallait qu'on s'aide. Donc, du coup, on se discutait sur nos salaires. Donc, après, on s'est rendu compte que les deux sœurs discutaient aussi des salaires. Combien tu payes? Moi, je sais pas combien payer. Donc. Et les derniers mails que j'ai eu discussion avec ma première patronne, elle, à un moment, à la fin, j'étais tellement en colère, je lui ai envoyé un mail vraiment assez corsé pour lui dire c'est un scandale parce qu'il m'avait fait, voilà, c'était plus, je savais pas. C'était explosion et je me suis plaint de mes conditions et elle m'a répondu en gros, mais écoute, moi je demandais à ma sœur combien elle payait, l'autre, et donc ça allait, et puis toi tu t'es jamais plaint, et puis en plus moi je passais pas par une agence qui négociait ton salaire, donc c'était moi qui négociais, donc désolé en fait, enfin j'ai fait au mieux, et voilà, c'était un peu son abuse.
Mais ce que tu décris, du coup, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, à la fois des relations, il peut y avoir des solidarités laborieuses, c'est-à-dire quand on est plusieurs à travailler dans une même maison, comme dans tout collectif de travail, on peut voilà, nouer des liens d'amitié, des liens affectifs aussi, et même des relations de séduction entre certains membres du personnel, et les employeurs ont horreur de ça et font tout pour éviter les relations de séduction. Et ça passe notamment parfois par aussi une neutralisation des genres, par l'apparence corporelle, demander aux femmes de ne pas mettre de décolleté, de ne pas se maquiller, de ne pas mettre de bijoux pour ne pas séduire les hommes aussi du collectif de travail, etc. Mais aussi beaucoup de mise en compétition en fait, du personnel par la prime, comme ça, c'est le cas dans l'univers de l'entreprise notamment, où en fait, alors par la prime qui peut s'exprimer, leur prime soit... en nature par un cadeau ou alors en argent avec le fait de quand on réussit à décrocher une heure avant une place au concert de Johnny Hallyday à l'époque, c'est un bon exemple vrai à l'époque où Johnny Hallyday existait et donc faisait des concerts, majordome a expliqué qu'il devait en une heure obtenir une place d'un concert de Johnny Hallyday au Stade de France qui était plein depuis 6 mois. Mais on sait qu'il reste toujours quelques places dans les carrés VIP pour les VIP qui auraient l'idée d'aller au concert en dernière minute. Et donc, en fait, le majordome devait se démener en 30 minutes pour trouver une place. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire majordome qui a un gros carnet d'adresses, qui a le numéro du régisseur du Stade de France et qui va négocier ça. Et en fait, il a eu une prime de 1000 euros. Enfin, il a eu 1000 euros pour avoir un peu comme toi quand on voulait te donner 1500 euros pour le dîner, quoi. Il y a aussi des voilà. Et ça met en concurrence aussi le personnel, notamment le plus haut placé, en fait, qui est aussi celui qui va avoir parfois les relations les plus proches avec les patrons. Parce que dans les maisons où il y a plusieurs domestiques, en fait, les employeuses et les employeurs vont plus discuter et se confier aux domestiques les plus haut placés. en fait, à qui ils vont plus donner des ordres au quotidien ou qui vont être un peu l'équivalent des contremaîtres, voilà, dans la maison. Alors, bah, les violences sexuelles, oui. Alors, c'est ce qui était bon, assez frappant, c'est que lorsque les femmes domestiques entrent dans ce métier et font domestique, c'est un peu l'idée qu'elles vont être potentiellement sujettes à de la, du harcèlement sexuel, sans tomber dans le viol, etc., et un peu acceptées. C'est voilà, elles s'y attendent. Hein. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, on sait depuis l'avènement de MeToo, etc., que en fait, dans toutes les sphères de travail et les sphères sociales, les femmes sont sujettes à ça. Donc, c'est pas, il faut pas non plus surestimer le fait que là, ça soit vraiment prégnant. En revanche, comme c'est dans l'intimité du domicile, ce lieu de travail particulièrement confiné où le droit ne pénètre pas, qui donne lieu aussi à une certaine liberté aussi d'exercer finalement la domination, voire la violence sans doute plus grande qu'ailleurs, eh bien, c'est un travail qui est le plus sujet à ça. Et d'ailleurs, le Comité contre l'esclavage moderne, qui est donc une grande association en France qui lutte contre l'esclavage moderne, mais partout, hein, que ce soit pas que dans la domesticité, a établi le fait que le domicile est le premier lieu non seulement d'esclavage moderne, mais aussi de violences sexuelles au travail, etc. Donc oui, il y en a. Et en fait, il y a les patronnes ont conscience que leurs époux ont parfois un droit de cuissage. Hein, ça existe toujours en fait sur les domestiques. Et en fait, il y a alors ça ressort surtout du point de vue des employés qui m'ont parlé de ça, mais aussi du point de vue d'employeuses qui parfois ont très peur que les domestiques séduisent leurs époux ou que leurs époux soient séduits par les domestiques. Et donc, ils vont, au moment du recrutement, faire tout un travail de ne pas rechercher les filles les plus jolies ou les plus attirantes selon leurs critères, qui sont aussi des critères socialement situés, etc. Mais par exemple, il y a un jugement de classe très fort envers les femmes des classes populaires qui parfois se présentent aux employeuses lors de l'entretien d'embauche en ayant du rouge à lèvres très rouge, les ongles rouges, bien vernis, des vêtements qui collent à la peau, et ça, ça passe pas du tout chez les classes supérieures qui, elles, valorisent au contraire une féminité qui n'est pas une féminité jugée comme étant vulgaire, qui est la féminité des classes populaires. Et donc, en fait, il va y avoir tout un travail aussi sur le corps. Mais cette question du... dans les entretiens, j'ai été en fait confrontée à beaucoup d'entretiens où on me parlait des femmes surtout, hein, sujettes au harcèlement, au viol, mais aussi de la part d'hommes du collectif du travail et qui a donné lieu à des motifs de départ aussi, hein, d'interruption de la relation de travail, où des femmes sont parties parce que voilà. Mais il y a aussi, et ça, je terminerai là-dessus, mais dernière chose intéressante, il y a aussi les employés véhiculent des réputations d'employeurs entre eux. Et donc, en fait, ils identifient très, très vite dans un quartier quelles sont les familles où il y a eu des attouchements, du harcèlement sexuel, et donc cherchent à tout prix à éviter de travailler, de se retrouver dans ces familles-là. Et d'ailleurs, les employeuses eux-mêmes savent qu'il y a des familles où l'homme, le patron, a des relations sexuelles avec les domestiques. Et donc, évite d'envoyer aussi des employés, parce que parfois, les employeuses recommandent des employés à des familles, chez ces familles-là. Donc, c'est des secrets qui se savent, qui sont secrets dans un entre-soi, mais qui se savent aussi, quoi.
Et oui, l'illusion, effectivement, de la famille peut aussi être, je pense, partagée par les patrons qui, effectivement, se pensant et se vivant comme des bienfaiteurs, peuvent aussi croire à la grandeur de la relation dont ils font bénéficier justement ce domestique, cette domestique voilà qu'ils vont adopter. Et je pense que ça peut effectivement tout à fait nourrir une illusion parfaite, hein. Voilà, on rencontre dans d'autres secteurs, en tout cas, voilà, dans la restauration, moi j'ai rencontré ça aussi, hein, des patrons qui voilà, se félicitent de donner accès, de mettre en œuvre du sauvetage social et qui réalisent effectivement du sauvetage social en permettant à des jeunes voilà, d'accéder à un emploi et ils les forment et ça devient voilà, quelqu'un qui est eh bien voilà, comme quelqu'un de la famille et donc effectivement il vivrait très mal eh bien une démission qui serait vécue comme une trahison. Et on la retrouve oui. Le scénario bien connu dans les relations domestiques.
Oui, tout à fait. Et puis ça renvoie, si on ajoute à ça une profondeur un peu historique, en fait, à toute l'histoire aussi du patronat chrétien, en fait, notamment au XIXe siècle, puis tout au long du XXe siècle, qui aussi s'est constitué comme un patronat modèle aussi, avec des valeurs, en se présentant comme des bienfaiteurs, non seulement offrir du travail, mais aussi offrir une protection sociale qui va au-delà de juste le salaire. Et de fait, c'est ce que font les ultra-riches, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des multimillionnaires qui, en fait, non seulement donnaient pas mal d'argent à un employé, mais aussi aller offrir des soins aux enfants, des soins médicaux, aller prendre en charge toute la famille de l'employé. Et donc, en fait, on a une diffusion, finalement, de cette prise en charge qui fait que, du coup, quand ils se présentent, à nous, sociologues, mais aussi de façon plus large, finalement, à l'échelle de la société, quand tous ces grands patrons, et même si on sort de la domesticité, se présentent comme des sauveurs, des bienfaiteurs, des pourvoyeurs, ben, en fait, on ne peut pas dire qu'ils ont tort, parce qu'il y a une réalité, il y a une réalité matérielle. Après, là où il y a ce qu'ils ne montrent pas, c'est que c'est eux seuls qui décident du coup des règles du jeu. Dans la domesticité, c'est les patrons qui décident des règles de recrutement qui sont fondées, vous l'avez compris, sur des règles qu'on pourrait juger discriminatoires, voire racistes, etc. C'est eux qui, du jour au lendemain, peuvent décider de licencier. Il n'y a pas de régulation. Et donc, l'État sert de tampon à réguler aussi une relation qui, ici, parce qu'elle est aux mains des très riches, n'est pas régulée. Et c'est intéressant parce que moi, dans les entretiens avec certains multimillionnaires, on en a un peu parlé à bâton rompu, qui étaient un peu réflexifs sur leur propre position de millionnaire et de grand patron, où moi, je leur disais, mais du coup, ça ne vous gêne pas de... Moi, je dis ça avec les gens qui étaient ouverts à cette discussion, et il y en avait peu, mais quelques-uns, et qui me disaient... Non, mais bon, c'est aussi normal que comme j'ai beaucoup d'argent, je décide aussi d'une partie de la manière dont le marché du travail, c'est à moi d'infléchir une partie du marché du travail parce que je suis puissant. Et ça, ça renvoie, je fais référence à ce qu'avaient aussi montré Michel et Monique Pinson-Charlot en faisant toute leur sociologie des grandes fortunes, c'est une assurance, en fait, aussi de classe d'être au-dessus des autres. Et qui réfère même, sans doute les historiens en parleraient beaucoup mieux que moi, mais même dans la monarchie, voilà, le roi est sûr qu'il vaut plus que les autres. Enfin, c'est une rhétorique qui relève du sang même, notamment chez les aristocrates, de par le sang, on est supérieur. À partir de ce moment-là, on peut être au-dessus des lois, en fait, notamment. Et cette illusion, elle est alimentée par les domestiques, comme tu l'as remis en perspective. Et c'est ça qui la rend opérable. Parce qu'en fait, finalement, il y aurait tout le monde qui dirait « Non, mais c'est bon, OK, vous dites ça, mais nous, on ne veut pas travailler. » Enfin, il n'y aurait plus de domesticité. Mais en fait, la domesticité, elle existe parce que, encore une fois, les domestiques, ils trouvent notamment un intérêt matériel, mais aussi symbolique, et tu l'as souligné, d'être les piliers aussi du succès social et symbolique de certaines personnes. Et en fait, c'est valorisant de te dire qu'on contribue au succès économique, je sais pas, de Bernard Arnault, quoi. On comprend, non mais j'ai pas rencontré les domestiques de Bernard Arnault, dommage, mais enfin, on comprend qu'on puisse, enfin voilà, que ça flatte, ça valorise. Alors en fait, j'ai fait deux fois ça. Donc il y a une fois, en fait, j'ai été nounou à temps partiel et ensuite à temps plein l'été quand j'étais pas encore en thèse. Et en fait, cette expérience a sans doute aussi alimenté mon désir de sociologiser. Voilà, on sait que les sociologues choisissent aussi leurs objets par des expériences. Mais j'étais quand même en sociologie à l'époque. En fait, j'avais pris énormément de notes sur tout ce qui se passait, etc. Et en fait, j'ai décidé dans ma thèse de reprendre ces notes que j'avais mis plein de carnets de cette expérience. Et ensuite, j'ai eu aussi une deuxième expérience pendant ma thèse cette fois-ci où je me suis fait recruter comme nounou. Alors, jamais à couvert, j'enquête jamais à couvert. Enfin, il y a des fois où on se doit sans doute, on est obligé d'enquêter à découvert. Mais moi, j'essaie de faire des terrains où je vais pas avoir ce dilemme en fait, éthique, moral. Donc, en fait, je me suis fait recruter comme babysitter dans une famille, comme, en fait, nounou et aide cuisinière à temps partiel pour suppléer une équipe de personnel de maison. Ils avaient besoin d'une autre personne qui soit là pour récupérer les enfants à l'école et pour aider à faire le linge, les devoirs, la cuisine, etc. Et donc, en fait, j'avais dit à ces employeurs-là que moi, je préparais une thèse de sociologie sur les services à la personne, etc. Ils m'avaient dit, oh, c'est super, mais ils n'ont jamais reparlé. Mais c'est pas pour ça, pour autant que ensuite je suis partie sans rien leur dire. C'est-à-dire qu'au moment aussi de mon départ, qui a été très dur, comme l'a rappelé Sylvie, et c'est là où j'ai mesuré aussi à quel point que c'était pas facile parce que on m'avait fait croire que j'étais essentielle, alors même si je déconstruisais tout ce truc-là, bah en fait le fait est que ça allait demander à l'employeuse de rechercher une babysitter à temps partiel, et c'est une femme qui travaillait énormément, et donc moi ça me mettait très mal à l'aise de lui dire en fait j'arrête. Et puis par contre, au moment où je leur ai dit, j'ai aussi eu une négociation de moi tout ce que j'ai pu observer aussi chez vous, j'aimerais les réutiliser dans ma thèse. Et donc, ça a fait l'objet de négociations sur ce que je devais dire et pas dire. Et donc, il y a plein de choses que je ne dis pas et que je ne dirai jamais aussi de ce que j'ai pu voir ou même dans la thèse, notamment, où c'est plus détaillé même que le livre et tout. Je décris des intérieurs, mais je ne décris jamais des détails. Enfin, voilà, il y a des choses que j'ai changées, etc. Donc, ça, c'était ma manière d'enquêter dans ce milieu-là. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, ce n'était pas pour m'enquêter moi, c'était pour enquêter le collectif de travail. Et c'est pour ça que je ne suis pas allée me faire embaucher dans des familles où il n'y avait pas d'autres employés, parce que, voilà. Mais parce que c'était des relations professionnelles auxquelles j'avais moins accès en entretien. J'avais davantage en fait, des discours sur la relation entre patron et domestique que finalement entre domestiques. Et donc, ce que toi, tu as pu vivre avec des collègues, moi, j'ai pu aussi le vivre, mais en ayant un statut à part. C'est-à-dire que, hélas, je ne gagnais pas 5000 euros par mois. J'étais payée 10 euros de l'heure, quoi, comme les babysitters. Mais je servais aussi de caution. J'étais la nounou blanche et diplômée de cette famille. Et d'ailleurs, dans la première famille pour laquelle j'ai travaillé, qui était une famille qui vivait entre la France et la Chine, ils avaient donc en Chine du personnel de maison à temps plein et en France aussi, et ils avaient une nounou chinoise, une AI, on appelle ça, qui les suivait en France et en Chine. Et donc, moi, j'ai travaillé en France avec cette AI qui, elle, ne parlait que mandarin. Et donc, moi, j'étais là pour ne pas, pour en fait faire parler devoir aux enfants, parce que la AI n'était pas diplômée, etc. On ne parlait pas français, etc. Donc, j'étais là avec elle. On allait chercher parfois toutes les deux les enfants à l'école. Donc voilà, j'ai eu cette relation, mais qui était aussi qui m'a permis d'avoir accès à plein de choses, et notamment ce dont tu parlais, la distance sociale qui est mise par la division spatiale aussi de l'espace, qui relève aussi d'une sociologie urbaine de l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a, je sais pas où elle en est dans sa thèse, mais si jamais vous recherchez des infos, il y avait une géographe, une doctorante à l'époque avec qui j'avais un petit peu échangé. Qui faisait sa thèse justement sur la géographie dans les situations de domesticité, mais spatiale à l'intérieur de la maison. Daphné Cayol, voilà, qui faisait une thèse là-dessus, dans la domesticité, notamment en Jordanie, en fait, avec aussi une connotation de l'espace intime qui n'est pas la même que dans les pays européens, etc. Bref. Et donc, du coup, j'ai pu aussi avoir accès à ça de l'intérieur, et notamment, moi, quand j'étais dans cette famille en Chine, eh bien, quand je suis arrivée en Chine, donc il y avait une dizaine d'autres employés domestiques, tous chinois qui travaillaient, on m'avait dit, les domestiques chinois vont dans ces toilettes et toi, tu as accès aux toilettes de l'employeur. Et donc, c'était extrêmement violent, non seulement pour le personnel chinois, parce que ça voulait dire, en fait, toi, t'es une femme blanche, tu viens de chez nous, donc tu peux aller dans les mêmes toilettes que nous, mais pas les Chinois. Et donc, les employeurs renvoyaient sans cesse leur personnel chinois à des gens qui étaient sales, en fait, beaucoup plus sales que les locales. Et aussi, dans la domesticité, il y a aussi tout un rapport au sale, à la question de la nudité, de la sexualité au sale que j'ai pu percevoir, en fait, dans l'intimité aussi, de l'intérieur. Et ça m'a donné énormément d'informations là-dessus, quoi. Et donc, j'utilisais pas les toilettes des employeurs, mais les employés domestiques chinois. Et ça les choquait, en fait. Ils comprenaient pas pourquoi.